franceinter.fr.
Une étude originale aujourd'hui à la une de la science. Que nous apprennent les parleurs nocturnes sur le sommeil et sur les rêves? Une équipe de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière s'est intéressée à nos discussions nocturnes, celles que nous tenons seules dans nos rêves. 232 patients ont accepté d'être enregistrés pendant 2 nuits. Et le décryptage de ces monologues, souvent grossiers, est publié cette semaine dans la revue Sleep. Axel, on en parle avec notre invité.
Oui, on accueille Isabelle Arnulf. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurologie au service pathologie du sommeil de la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est vous qui avez coordonné cette étude. Comment vous est venue l'idée d'enregistrer la parole de vos patients pendant les nuits qu'ils passaient chez vous?
On s'intéresse au comportement nocturne depuis longtemps. Vous savez, le sommeil, c'est une boîte noire. Alors d'habitude, on travaille plutôt sur les violences, les somnambulismes, mais cette façon de parler en dormant, finalement, avait jamais été étudiée, parce que d'abord, c'est pas une maladie de parler dans le sommeil.
Oui.
Et puis, on s'est dit que peut-être on aurait accès au fonctionnement du cerveau pendant le sommeil à travers ce qu'on dit et ce qu'on extériorise pendant qu'on dort.
Est-ce que tout le monde parle en dormant?
Alors, 7 personnes sur 10 ont déjà parlé dans le sommeil. Après, parler toutes les nuits, c'est beaucoup plus rare. Et c'est plus fréquent chez les personnes qui ont soit du somnambulisme, soit d'autres troubles dans le sommeil paradoxal.
Alors, qu'est-ce qu'il vous...
Il y a des familles de parleurs aussi.
Il y a des pathologies où on parle plus, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, il y a tout ce qui est de l'ordre des parasomnies, c'est-à-dire le somnambulisme, les terreurs nocturnes, les gens qui s'assoient sur leur lit la nuit, et puis ceux qui ne sont plus paralysés dans le sommeil paradoxal sont des gros parleurs.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ces dormeurs alors, parce que ces enregistrements, vous les avez décryptés, quelles sont les particularités?
Alors la première chose, c'est que les hommes parlent plus que les femmes la nuit, avec des paroles plus longues, ce qui était étonnant. La deuxième chose, c'est que c'est un langage très négatif. Le mot le plus prononcé la nuit, c'est non.
Ah bon.
Et ensuite, quand on compare au langage dans la journée, la deuxième caractéristique, c'est que c'est beaucoup plus vulgaire. Les mots comme putain et merde sont dits plus de 100 fois plus la nuit que le jour.
100 fois plus?
Ah oui, plus de 100 fois plus. Et enfin, c'est grammaticalement correct. Hein, les gens parlent bien et c'est un langage qui est adressé à quelqu'un. C'est pas un monologue intérieur, les gens disent tu, vous, laissent la place à l'autre pour répondre et reprennent la conversation comme pendant des tours de parole classiques qu'on ferait en éveil. Donc quelque chose qui ressemble à la parole d'éveil, mais qui est plus préoccupé, plus tendu. Il y a beaucoup de points d'exclamation, de points d'interrogation que dans la parole de jour.
Isabelle Arnulf, comment vous avez recruté justement vos cobayes pour cette étude? Vous avez passé une annonce, recherche dormeurs parlants? Comment
s'est
passé?
Oui, au début on a fait comme ça et on a proposé de payer les gens pour dormir au laboratoire. Et il y a plein de gens qui nous disent « Oh, moi je parle beaucoup, beaucoup » et qui sont venus et qui parlaient finalement pas beaucoup, une ou deux phrases. Donc finalement, on a enregistré toutes les nuits tout le monde avec le micro et la vidéo. Et vous savez qu'on est un centre de sommeil avec un peu plus de 3000 enregistrements par année. Et donc sur l'ensemble, voilà, on a réussi à avoir un peu plus de 220 personnes qui ont parlé.
Alors on va plonger dans la nuit de vos patients, puisque vous nous avez autorisé à diffuser un enregistrement. Il s'agit d'une patiente et je crois qu'elle parle de lunettes.
J'ai vraiment peur, hein. Les lumières, c'est très fort. Attention, les lunettes. Attention, les lunettes. Non, là, tout est réglé.
C'est pas très clair.
C'est pas
même,
très clair.
Hein. Est-ce qu'on a une traduction, Isabelle Arnulf?
Alors oui, c'est pas toujours très clair. Vous savez qu'une à peu près une parole sur deux la nuit est marmonnée, difficile à comprendre. On voit que les gens parlent, mais on comprend pas tout ce qu'ils disent. Voilà, là c'était non. Enfin, j'ai plutôt en tête où sont les lunettes. Enfin, les gens sont préoccupés. Hein. Clairement, ils cherchent des choses dans leur sommeil.
Vous avez essayé de traduire Axel aussi, je crois.
Ah, moi, j'ai une traduction, mais c'est la mienne. Ouais. J'ai lu blablabla bla, bla, putain. Le lion c'est très fort. Attention, il a mis ses lunettes. Non, je veux pas. Je dors. Désolé. Voilà, c'est ce que j'avais. Pourquoi certaines paroles sont compréhensibles et d'autres pas? Vous avez une explication à ça?
Non, on pense que y a le système qui nous fait parler, le larynx, est pas tout le temps rétabli la nuit. C'est un peu intermittent, comme un mauvais passage radio ou téléphone.
Et d'un point de vue neurologique, vous en parliez, est-ce que vous avez appris des choses sur les rêves, sur le sommeil en particulier?
Oui, on a appris d'abord que ça concerne quand même pas mal dans le cerveau, puisque c'est grammaticalement correct, donc ça suppose que c'est les mêmes circuits qui nous font parler le jour, qui parlent la nuit aussi. et que bah, que nos rêves soient préoccupés, c'est pas une nouveauté, mais c'est un peu plus prouvé. Et vous savez que 2/3 de nos rêves sont plutôt négatifs, et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les paroles. Il y a des gens qui se marrent et qui font des phrases drôles, mais c'est pas le plus fréquent la nuit.
Est-ce que vous avez fait écouter les enregistrements aux personnes qui ont accepté de dormir pour vous ou pas?
Oui, pour la majorité, tous ceux qui demandent, oui. Après, c'est pas tout le monde ne demande pas à savoir ce qu'il fait la nuit.
Oui, mais est-ce qu'il y a eu des révélations? Est-ce que certaines personnes, par exemple, je ne sais pas, ont balancé le nom de leur maîtresse ou de leur amant pendant leur sommeil? Qu'est-ce qui se raconte quand même?
C'est vrai que c'est pas une pathologie, mais ça peut être bruyant, donc ça peut être une gêne dans le couple, et ça peut révéler des secrets. Après, on a vu des dragues nocturnes, oui, ça existe, mais il n'y a pas beaucoup de prénoms, il y a quelques prénoms prononcés, mais pas beaucoup.
Et la parole est forcément associée au rêve et inversement dans ces phases-là?
Oui, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a pu avoir du récit correspondant au rêve, c'est congruent, c'est cohérent avec la séquence de phrases. Donc on est bien dans une extériorisation d'un contenu de rêve.
Est-ce que vous cherchez encore des cobayes? Parce que peut-être qu'après votre passage par France Inter, des gens vont vous contacter.
On avait à un moment fait apprendre des textes avant de dormir pour voir si les gens les redisaient dans le sommeil. Est-ce qu'on consolide
la mémoire
en particulier en redisant les mêmes choses? Et effectivement, à cette époque-là, on cherchait des gros parleurs et on en a eu quelques-uns. Par contre, les gens redisent pas ce qu'ils ont appris, mais ils disent des choses en rapport, ils construisent, ils brodent autour. Vous voyez, c'est pas juste copier-coller la mémoire nocturne, c'est plutôt une reconstruction.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un prolongement de vos travaux avec des psychologues, par exemple, ou des psychanalystes? Tiens, ça pourrait les intéresser de lire dans ces paroles.
Ça, je ne sais pas. Par contre, avec le stress, la gestion des émotions, certainement, puisque c'est quand même plus préoccupé. Donc, est-ce qu'on n'extériorise pas dans tous nos discours nocturnes que la partie la plus préoccupée et la plus émotionnelle de la nuit? C'est une possibilité.
En tout cas, vous le disiez à Isabelle Arnulf, le mot le plus prononcé, c'est le non, hein, pendant la
c'est
nuit.
Non. C'est ça. Non, voilà. Et après, c'est plutôt des oui, c'est l'âge du non. C'est plutôt des verbes habituels, faire, etc. Mais le suivant, c'est putain. Après non, c'est putain dans l'ordre de fréquence. Donc,
et vous
voyez,
voilà.
Quelque chose de très désinhibé.
Eh ben, ça va nous faire notre journée. Merci beaucoup, Isabelle Arnulf, neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Merci beaucoup à vous. Et puis, Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle une.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les boissons énergétiques et la santé des ados, de plus en plus consommées, en particulier chez les jeunes, les risques de santé liés aux différents constituants de ces boissons sont encore mal connus. Et dans ce but, des chercheurs de l'Université de Waterloo au Canada ont interrogé près de 2000 consommateurs de 12 à 24 ans. Plus de la moitié déclare avoir déjà expérimenté de la tachycardie ou des maux de tête. Plus préoccupant, 5% disent avoir eu des nausées, des vomissements ou des diarrhées. Pour une infime partie d'entre eux, les conséquences sont encore plus graves, puisque certains ont été sujets à des douleurs thoraciques ou des attaques. Alors que l'accès à ces boissons est toujours plus facilité et bien souvent associé à l'alcool, il est important, disent les chercheurs, d'en apprendre plus sur leur composition et leurs effets pour protéger les jeunes. Utiliser la fibre optique pour détecter les tremblements de terre, c'est l'idée d'un géophysicien de l'université de Stanford. Lorsque la lumière rencontre une impureté dans la fibre optique, elle rebondit et le signal est perturbé de manière constante. Mais lors d'une secousse sismique, la perturbation varie. Ce nouveau procédé vise à détecter des séismes de faible intensité le plus tôt possible. Il permettrait également un déploiement à grande échelle via les immenses réseaux de fibres optiques déjà installés par Internet dans le monde entier. Le chercheur déclare avoir déjà réussi à détecter près de 800 petits tremblements de terre et un plus important, celui de Chiapas qui s'est déroulé en septembre dernier au Mexique et d'une magnitude de 8.1 sur l'échelle de Richter. Et puis grimper comme un gecko grâce à un nouveau matériau, des ingénieurs de l'Université de Technologie et du Design de Singapour ont mis au point un adhésif qui permettra peut-être un jour de défier la gravité. Pour cela, ils se sont inspirés de la structure nanométrique des pattes du gecko, ce lézard connu pour ses capacités de grimpeur hors pair. Leur adhésif est réalisé à base de polycarbonate rigide, agencé en différentes couches en forme de toile d'araignée. Sa fabrication est facile, peu coûteuse et réalisable à grande échelle. Après plusieurs tests, les capacités adhésives se sont montrées comparables à celles des pattes du gecko. Appliqué ensuite sur un petit robot miniature, celui-ci a réussi l'ascension d'une pente inclinée à 30 degrés.